Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute d'RFI si vous nous rejoignez. RFI à Paris, il est 17h.
Le journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Nous sommes le vendredi 15 mars, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal en français facile. Avec au sommaire à Gaza, il est arrivé à bon port. Le bateau chargé d'aide humanitaire a commencé à être déchargé. Soutenir l'Ukraine et ne jamais laisser gagner la Russie, c'est ce que vient de répéter Emmanuel Macron. Le président français est à Berlin aux côtés du chancelier allemand et du premier ministre polonais. Et puis pendant ce temps-là, se déroule une élection présidentielle en Russie, une élection perturbée par des jets de cocktails Molotov et une bombe qui a explosé devant un bureau de vote. Voilà pour les titres. Des négociations reprennent entre le Hamas et Israël. Israël vient d'annoncer qu'elle allait envoyer une délégation au Qatar. Des représentants israéliens vont arriver à Doha pour discuter d'un échange d'otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens. Cette annonce intervient alors que le Hamas revoit à la baisse ses exigences, ses demandes. Le Hamas exigeait jusqu'ici un cessez-le-feu définitif et immédiat à Gaza. Le Hamas est désormais prêt à une trêve, à un arrêt des combats sur une période de 6 semaines. Pendant ce temps-là, une nouvelle distribution d'aide alimentaire a été prise pour cible à Gaza. Selon le Hamas, au moins 20 personnes ont été tuées et des centaines de blessés. Ça s'est passé la nuit dernière. Des morts et des blessés par des tirs israéliens d'après le Hamas, mais Israël dément. Israël dit ne pas être à l'origine des tirs mortels. Notre envoyé spécial à Jérusalem, Muriel Paradon, a recueilli le témoignage d'un habitant de Gaza.
La nuit dernière, Mohamed Al-Sharif entend des tirs et des bombardements, mais ils sont tellement réguliers, dit-il, qu'il n'y prête pas attention. Cet habitant du nord de Gaza habite tout près du lieu de distribution de l'aide humanitaire.
Tous les jours, les gens se regroupent autour du carrefour du Koweït, qui n'est pas loin du barrage israélien installé depuis le début de la guerre. Les avions et les chars israéliens ont bombardé ces civils innocents qui se regroupent massivement pour une unique raison, ils ont besoin d'aide, de farine. Moi, personnellement, j'ai failli être pris pour cible parce que je me suis déplacé dans plusieurs endroits pour obtenir ces aides. Franchement, quand tu vas dans les marchés où il y a des vendeurs ambulants, tu ne trouves rien à manger, ni pour le déjeuner, ni pour le dîner. Même le lait pour les enfants, tu ne trouves pas. C'est très difficile de trouver quoi que ce soit. On en est arrivé à manger des plantes sauvages.
Mohamed Al-Sharif a aussi tenté d'acheter des colis alimentaires parachutés par les airs à ceux qui les ont récupérés et qui les revendent. Sans succès, dit-il, il y a trop de personnes dans le besoin à Gaza. Muriel Paradon, Jérusalem, RFI.
Et puis attendu maintenant depuis plusieurs jours, 200 tonnes de vivres, de nourriture, à savoir du riz, de la farine ou encore des boîtes de conserve, commencent à être déchargées à Gaza, sans plus de précision à l'heure actuelle. Et puis ce vendredi, pour les musulmans, est la première grande prière de la semaine depuis le début du Ramadan. À Jérusalem-Est, des dizaines de milliers de musulmans sont venus prier dans le calme aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées. Une importante présence de l'armée israélienne était remarquée. Il n'y a pas eu d'incident.
Le journal
en français facile.
En français facile.
Élection présidentielle en Russie. Depuis ce matin et jusqu'à dimanche soir, les Russes sont appelés à voter. Élection émaillée d'incidents. À Saint-Pétersbourg, un bureau a été attaqué au cocktail Molotov. Dans la région de Kherson, région occupée par la Russie, une bombe a explosé devant un bureau de vote sans faire de victimes. En l'absence de toute opposition, Vladimir Poutine sera réélu triomphalement. Par ailleurs, cette élection présidentielle marque aussi quelques nouveautés. Nous sommes avec Anissa El-Jabri, correspondante d'RFI à Moscou. Anissa, beaucoup de nouveaux dispositifs techniques ont été mis en place pour encadrer le vote.
Oui, il y a ce vote électronique déployé dans 29 régions sur les 83 que compte la Russie, 83 plus tous les territoires occupés de l'Ukraine. La fin aussi des observateurs d'ONG indépendantes et des représentants de partis non admis dans la compétition dans les bureaux de vote. La fin également de ces caméras qui retransmettaient en direct sur le site de la commission électorale les opérations. Il y a surtout cette autre première, un vote étalé sur 3 jours et des bulletins laissés en pleine nuit à l'abri des regards. Ce vendredi est en tout cas un jour où les fonctionnaires doivent voter en masse, souvent priés d'amener avec eux 3 personnes et d'envoyer la preuve qu'ils ont exercé leur devoir civique à leurs supérieurs ou à la direction des ressources humaines.
Anissa El Jabri, correspondante de Radio France Internationale, en Russie. Il est 17h06 à Berlin. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Donald Tusk, main dans la main, les 3 dirigeants de ce qu'on appelle le triangle de Weimar, c'est ce format franco-germano-polonais, se sont retrouvés aujourd'hui à Berlin. Le chancelier Olaf Scholz accueillait le premier ministre polonais Donald Tusk aussi, ainsi que le président français Emmanuel Macron, avec un but affiché, l'unité des 3 pays pour soutenir l'Ukraine, comme le précise Emmanuel Macron.
Nous ferons tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre. Nous continuerons de soutenir aussi longtemps que nécessaire l'Ukraine et son peuple, et nous continuerons, comme nous l'avons fait depuis le premier jour, à ne jamais prendre l'initiative de quelque escalade. La rencontre d'aujourd'hui permet d'une part de renforcer notre unité et de montrer notre détermination à 3 dans ce format si important qu'est celui de Weimar. Elle nous a permis aussi de partager une même lecture de la situation en Ukraine. Le moment est grave, c'est une époque nouvelle qui s'ouvre et nous serons au rendez-vous. Et le fait que nous soyons en ce jour tous les 3 unis, déterminés, avec la même lucidité sur la situation en Ukraine et résolus à ne jamais laisser gagner la Russie et à soutenir le peuple ukrainien jusqu'au bout, est une force pour nous, nos peuples, notre sécurité et notre Europe.
Le président français Emmanuel Macron, il y a quelques instants à Berlin, aux côtés du chancelier allemand et du premier ministre polonais. Le premier ministre polonais qui propose une prochaine réunion du triangle de Weimar cet été. Alors, pour information, le triangle de Weimar a été créé en 1991 pour sceller la réconciliation germano-polonaise. Il réunit donc la France, l'Allemagne et la Pologne. Et puis enfin parlons de laïcité à l'école, l'école française. Alors la laïcité, c'est un principe de liberté, liberté de croire ou de ne pas croire. Il y a 20 ans jour pour jour, la loi du 15 mars 2024 interdisait le port des signes religieux à l'école ou les tenues qui manifestent une appartenance religieuse dans les écoles publiques. 20 ans plus tard, la question de la laïcité à l'école française reste toujours d'actualité. Carole Zerbib est professeure au lycée Vauquelin à Paris. Elle est aussi membre d'un observatoire de la laïcité.
La question des tenues religieuses, c'est un petit peu la face émergée de l'iceberg. Ce à quoi on a à faire face aujourd'hui de plus en plus, c'est la contestation de l'enseignement, la remise en cause de faits historiques. Donc ce sont des choses qui sont un peu plus là en rapport avec les contenus d'enseignement. La laïcité, elle préserve quand même les élèves d'avoir des connaissances et des savoirs qui s'appuient sur une vérité qui soit historique ou scientifique et qui leur permet de développer une rationalité critique. Que les élèves croient ensuite à une religion et pensent que l'homme n'est pas issu du fruit d'une évolution, mais qu'il a été créé à l'image de Dieu tel qu'il est aujourd'hui, ça, ils ont cette liberté de croire et de ne pas croire. Mais il faut aussi qu'ils sachent qu'il y a aussi une explication scientifique aux choses et pas que religieuse.
Ainsi se referme ce journal. L'heure à présent de céder la place au Café des Sports sur RFI et France 24. Il va être question de football européen.